Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent Marioupol, sur les routes de l'enfer, de Liseron Boudoul et Charles d'Anjou. Narration Sarah Duquenois. Les mots sont des armes. Marioupol assiégée. Souffrance et survie des habitants. Liseron.
Ce jour-là, le samedi 19 mars, nous arrivons à Marioupol pour la première fois. Un checkpoint contrôle les entrées et les sorties de la ville. La scène est étrange. On peut voir des centaines de voitures qui se suivent avec des chiffons blancs accrochés au rétroviseur. Sur les vitres de ces voitures, dont la plupart sont en très mauvais état, cible évidente des tirs d'artillerie ou d'armes automatiques, on trouve inscrit « Dieti », qui veut dire « enfant » en russe, afin d'attendrir l'adversaire et de peut-être ne pas être visé. Se faire identifier comme civil, c'est la condition première ici pour se déplacer sans risque. Sur le flanc de cette immense colonne d'auto brinque-ballante, une petite voiture blanche est arrêtée. L'avant est défoncé. Le conducteur est affalé sur le volant. Il semble dormir. En réalité, il est mort. Lui aussi a voulu fuir. Mais il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Autour de nous, c'est un décor d'apocalypse. Les combats au sol viennent tout juste de se terminer. Sur un panneau en bord de route est indiqué Zaporijia, une ville ukrainienne à 240 km de Marioupol. Nous sommes donc au nord-ouest de Marioupol. Alors que nous remontons cette colonne en direction de la ville, nous sommes étonnés de voir les habitants courir et passer devant nous sans même nous voir. Leur priorité, tourner à gauche vers une petite rue. Qu'y a-t-il dans cette rue ? Nous descendons de voiture et suivons un groupe de femmes. Elles se dirigent en fait vers l'énorme entrepôt d'un grand magasin. Il y a des centaines de personnes, des ados, des grands-mères, des habitants parvenant à peine à marcher, qui, dans la panique, essaient de récupérer tout ce qu'ils peuvent. Un homme me montre en souriant un vieux caddie rouillé dans lequel il a mis des sacs de macaroni, pâtes en russe, de l'eau, des gâteaux, des boîtes de conserve. Pour ses habitants, c'est le premier jour à l'air libre. Les combats ont cessé dans le secteur. Ils sortent tout juste de leurs abris, de leurs caves. Aujourd'hui, c'est aussi le jour où les Russes ont décidé d'ouvrir un corridor humanitaire qui permet aux habitants de sortir de leur quartier pour venir se ravitailler ici. Nous voyons deux ou trois miliciens pro-russes qui laissent des personnes venir se servir dans ce dépôt. De toute façon, ils ne peuvent pas faire grand-chose parce que les civils arrivent par centaines. On sent la tension entre les miliciens et les habitants qui essaient d'entrer et de ressortir le plus vite possible en emportant avec eux le maximum de nourriture, d'eau et de produits d'hygiène. Certains sont ingénieux. On voit des dizaines d'hommes et de femmes juchés sur un balcon de l'entrepôt qui récupèrent les produits apportés par une autre équipe dispersée dans le bâtiment. Ensuite, ils font descendre les provisions glanées dans des seaux au moyen de cordes afin que ça aille plus vite. En bas, des membres de leur famille ou des amis récupèrent le tout et remplissent les caddies. Il y a une certaine cohue. Tout le monde se démène pour mettre la main sur de la nourriture. Certains n'ont pas de caddie et remplissent des sacs plastiques. D'autres ont construit de petits traîneaux avec des palettes de bois qu'on trouve justement à côté des dépôts des grands magasins auxquels ils ont attaché une corde et qu'ils tirent à même le sol. Sans roulette, sans rien. Leur bruit crissant couvre le commentaire de ma vidéo TikTok que j'enregistre en vitesse pour envoyer à TF1. Sortir pour survivre, après être resté dans les caves et les abris pendant plus de 3 semaines, avoir ses habitants, la pâleur de leur visage et la maigreur de leur corps, on se doute qu'il ne doit plus y avoir grand-chose à manger et à boire dans les caves. Devant ces centaines de personnes qui repartent vers la ville, les bras chargés de tout ce qu'ils ont pu récupérer, il est clair qu'une grande partie de la population n'a pas quitté la ville avant les combats. Pris au piège des batailles en surface, ils n'ont eu d'autre choix que de descendre dans les caves pour organiser une nouvelle vie à l'abri des tirs et des explosions. Nous essayons de parler à quelques personnes, mais très vite, nous ressentons une tension. Leurs réponses sont très vives. Ils en veulent à tout le monde. Ils nous demandent d'où on vient, et quand nous répondons que nous sommes Français, ils commencent à nous parler de Macron, puis de l'Europe. Ils nous insultent, ils nous disent que les Européens et Macron n'ont rien fait pour que le conflit s'arrête. Nous écoutons sans rien répondre, parce que ces personnes sont dans la douleur et la détresse des plus totales. Des soldats russes assistent à cette scène, et ce moment de friction entre nous, journalistes, et un groupe d'habitants. Ils observent, et au bout d'un moment, nous font signe de nous éloigner. Certainement, craignent-ils que ça dégénère. Nous obéissons. Nous reprenons la route en direction des premiers quartiers d'habitation. On entend des tirs d'artillerie, d'armes automatiques et un peu plus loin, sur une grande avenue rectiligne qui mène directement au centre-ville. La colonne de véhicules se termine au niveau d'un immense rond-point. Là, les journalistes descendent, prennent leur équipement. Ordre est donné d'enlever les voitures au plus vite pour les positionner un peu plus loin, à l'abri, au niveau d'une station-service. Les Ukrainiens, comme les Russes, utilisent beaucoup de drones. Disons-le, c'est une guerre de drones. Chacun envoie sans discontinuer ses engins en reconnaissance à la recherche de cibles qui, une fois identifiées, font l'objet de frappes plus ou moins précises. C'est pourquoi il faut vite sortir de nos voitures. 5 ou 6 4x4 à un rond-point, avec des plaques russes, forment une cible parfaite. On peut penser qu'il s'agit d'un groupe d'officiers de l'état-major russe qui vient sur place. Aux nombreuses colonnes de fumée qui se dégagent des quartiers situés à moins d'un kilomètre en direction du centre-ville, on devine que les combats sont intenses. Chars, obusiers, mortiers, armes automatiques, la bataille fait rage et les tirs sont nourris. On essaie de s'avancer un peu. C'est le bon endroit pour faire un petit plateau, afin d'enregistrer ce qu'on appelle un faux direct pour le journal du soir, en expliquant que les combats se déroulent un peu plus loin. Mais à peine le temps de parler 10 secondes que les miliciens pro-russes nous crient « C'est trop dangereux, sortez de là !» C'est vrai qu'il peut y avoir des snipers et que l'avenue est un véritable champ de tir. Alors ils viennent nous chercher et nous conduisent dans une cour d'immeuble non loin de là. Nous sommes un petit groupe de journalistes, une douzaine, travaillant pour Al Jazeera, des chaînes russes, un journaliste chinois, plus les accompagnateurs, les chauffeurs et nous. Nous sommes 3 avec Gilles, notre caméraman. On ne va pas à Mariupol tout seul. Ce jour-là, 2 miliciens pro-russes, des officiers de presse, nous accompagnent. On les surnomme nos anges gardiens. Ils sont toujours inquiets parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour être certains que les journalistes ne sont pas égarés. Les hommes sont stressés parce que leur mission est de ramener tout le monde en vie du dédale de rue, d'immeubles dans lequel nous évoluons, à Donetsk. Leur inquiétude, c'est de perdre un journaliste ou qu'il y ait un blessé.